Histoire d'un crime par Victor Hugo. Troisième journée, le massacre. 3-1. Ceux qui dorment et celui qui ne dort pas. Dans cette nuit, du 3 au 4, pendant qu'accablés de fatigue et promis aux catastrophes, nous dormions d'un sommeil honnête, on ne fermait pas l'œil à l'Élysée. L'insomnie était là, infâme. Vers 2 heures du matin, le plus intime après Morny, des confidents de l'Élysée, le comte Roguet, ancien pair de France et lieutenant général, sortait du cabinet de Louis Bonaparte. Roguet était accompagné de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud était, on s'en souvient, le ministre de la guerre de ce moment-là. 2 colonels attendaient dans le petit salon de service. Saint-Arnaud était un général qui avait été figurant à l'ambigu. Il avait débuté par être comique à la banlieue, tragique plus tard. Signalement, haute taille, sec, mince, anguleux, moustache grise, cheveux plats, mine basse. C'était un coupe-jarret, mais mal élevé. Il prononçait « peuple souverain ». Morny en riait. « Il ne prononce pas mieux le mot qu'il ne comprend la chose », disait-il. L'Élysée, qui se piquait d'élégance, n'acceptait qu'à demi Saint-Arnaud. Son côté sanglant lui faisait pardonner son côté vulgaire. Saint-Arnaud était brave, violent et timide. Il avait l'audace du soudard galonné et la gaucherie de l'ancien pauvre diable. Nous le vîmes un jour à la tribune, blême, balbutiant, hardi. Il avait un long visage osseux et une mâchoire inquiétante. Son nom de théâtre était Florival. C'était un cabotin passé reître. Il est mort maréchal de France, figure sinistre. Les 2 colonels qui attendaient Saint-Arnaud dans le salon de service étaient 2 hommes d'expédition, chefs chacun d'un de ces régiments décisifs qui, dans les occasions suprêmes, entraînent les autres régiments selon la consigne, dans la gloire comme à Austerlitz ou dans le crime comme au 18 Brumaire. Ces 2 officiers faisaient partie de ce que Morny appelait la crème des colonels endettés et viveurs. Nous ne les nommerons pas ici. L'un est mort, l'autre existe, il se reconnaîtra. Du reste, on a pu les entrevoir dans les premières pages de ce livre. L'un, homme de 38 ans, était retors, intrépide, ingrat. 3 qualités pour réussir. Le duc d'Aumale, dans l'Aurès, lui avait sauvé la vie. C'était alors un jeune capitaine. Une balle lui traversa le corps, il tomba dans les buissons, les Kabyles accoururent pour lui couper et lui emporter la tête, le duc d'Aumale survint, avec 2 officiers, un soldat et un trompette, chargea les Kabyles et sauva ce capitaine. L'ayant sauvé, il l'aima. L'un fut reconnaissant, l'autre pas. Le reconnaissant, ce fut le sauveur. Le duc d'Aumale sut gré à ce jeune capitaine de lui avoir donné l'occasion d'un fait d'armes. Il le fit chef d'escadron. En 1849, ce chef d'escadron fut lieutenant-colonel, commanda une colonne d'assaut au siège de Rome, puis revint en Afrique, où Fleury l'embaucha en même temps que Saint-Arnaud. Louis Bonaparte le fit colonel en juillet 1851 et compta sur lui. En novembre, ce colonel de Louis Bonaparte écrivait au duc d'Aumale. Il n'y a rien à attendre de ce misérable aventurier. En décembre, il commandait un régiment meurtrier. Plus tard, dans la Drobrutscha, un cheval maltraité se fâcha et d'un coup de dent lui arracha une joue, de sorte qu'il n'eut plus place sur ce visage que pour un soufflet. L'autre grisonnait et avait 48 ans. C'était lui aussi un homme de plaisir et de meurtre, comme citoyen, abject, comme soldat, vaillant. Il avait sauté, un des premiers, sur la brèche de Constantine. Beaucoup de bravoure et de bassesse. Aucune chevalerie, que d'industrie. Louis Bonaparte l'avait fait colonel en août 1851. Ses dettes avaient été payées 2 fois par 2 princes. La première fois par le duc d'Orléans, la seconde fois par le duc de Nemours. Tels étaient ces colonels. Saint Arnaud leur parla quelque temps à voix basse. 3.2. L'intérieur du comité. Dès l'aube, nous étions réunis dans la maison de notre collègue prisonnier, M. Grévy. On nous avait installés dans son cabinet. Nous étions, Michel de Bourges et moi, assis près de la cheminée. Jules Favre et Carnot écrivaient, l'un sur la table, près de la fenêtre, l'autre sur un pupitre à écrire debout. La gauche nous avait investis d'un pouvoir discrétionnaire. Se rassembler en séance devenait à chaque instant plus impossible. Nous rendîmes en son nom et nous remîmes à Ingres pour qu'il l'imprimât immédiatement le décret suivant, rédigé à la hâte par Jules Favre. République française, liberté, égalité, fraternité. Les représentants du peuple sous-signés demeurés libres, réunis en assemblée de permanence extraordinaire, vu l'arrestation de la plupart de leurs collègues, vu l'urgence, considérant que le crime de Louis-Napoléon Bonaparte, en abolissant par la violence l'action des pouvoirs publics, rétablit la nation dans l'exercice direct de la souveraineté et que tout ce qui entrave actuellement cette souveraineté doit être annulé, considérant que toutes les poursuites commencées, toutes les condamnations prononcées à quelque titre que ce soit pour crimes ou délits politiques sont anéanties par le droit imprescriptible du peuple. Décrète. Article 1er. Sont abolies dans tous leurs effets criminels ou civils toutes poursuites commencées, toutes condamnations prononcées pour crimes ou délits politiques. Article 2. En conséquence, il est enjoint à tout directeur des maisons d'arrêt ou de détention de mettre immédiatement en liberté toutes les personnes retenues en prison pour les causes indiquées ci-dessus. Article 3. Il est également enjoint à tous officiers de parquet et de police judiciaire, sous peine de forfaiture, de mettre à néant toutes les poursuites commencées pour les mêmes causes. Article 4. Les fonctionnaires et agents de la force publique sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, en assemblée de permanence, le 4 décembre 1851. Jules Favre, en me passant le décret pour le signer, me dit en souriant « Mettons en liberté vos fils et vos amis. » « Oui, repris-je, 4 combattants de plus sur les barricades. » Note. Paul Meurice et Auguste Vacry étaient à la conciergerie avec Charles et François-Victor Hugo. Fin de note. Le représentant du PUTS reçut quelques heures plus tard de nos mains ampliation du décret, avec mission de le porter lui-même à la conciergerie, dès que le coup de main que nous préméditions sur la préfecture de police et l'hôtel de ville aurait réussi. Malheureusement, ce coup de main manqua. Survint Landrin. Ses fonctions à Paris en 1848 l'avaient mis à même de connaître à fond le personnel de la police politique et de la police municipale. Il nous prévint qu'il avait vu rôder aux alentours des figures suspectes. Nous étions rue Richelieu, presque vis-à-vis le Théâtre français, un des points où abondent le plus de passants et par conséquent un des points les plus surveillés. Les allées et venues des représentants qui se mettaient en communication avec le comité et qui entraient et sortaient sans cesse seraient inévitablement remarquées et amèneraient une descente de police. Les portiers et les voisins manifestaient déjà un étonnement inquiétant. Nous courions, Landrin le constatait et l'affirmait, les plus grands dangers. « Vous allez être pris et fusillés, » nous dit-il. Il nous conjura de nous transporter ailleurs. Le frère de M. Grévy, consulté par nous, nous déclara qu'il ne pouvait répondre des gens de sa maison. Mais que faire ? Traqués depuis 2 jours, nous avions épuisé à peu près toutes les bonnes volontés. Un asile nous avait été refusé la veille. Et en ce moment-là, aucune maison ne nous était offerte. Depuis la surveille, nous avions changé 17 fois d'asile, allant parfois d'une extrémité de Paris à l'autre. Nous commencions à ressentir quelque lassitude. D'ailleurs, je l'ai dit déjà, la maison où nous étions avait ce précieux avantage d'une issue, par les derrière, sur la rue Fontaine-Molière. Nous nous décidâmes à rester. Seulement, nous crûmes devoir prendre nos précautions. Tous les genres de dévouement éclataient dans les rangs de la gauche autour de nous. Un membre notable de l'Assemblée, un homme d'un rare esprit et d'un rare courage, durant sa voya, s'était fait depuis la veille et est resté jusqu'au dernier jour notre gardien, disons plus, notre huissier et notre portier. Il avait lui-même posé une sonnette sur notre table et il nous avait dit « Quand vous aurez besoin de moi, sonnez, je viendrai ». Partout où nous allions, il était là. Il se tenait dans l'antichambre, calme, impassible, silencieux, avec sa grave et noble figure, et sa redingote boutonnée et son large chapeau qui lui donnait l'air d'un ministre anglican. Il ouvrait lui-même la porte d'entrée, reconnaissait les survenants et écartait les importuns et les inutiles. Du reste, toujours gai et disposé à dire sans cesse « Cela va bien ». Nous étions perdus, il souriait. L'optimisme dans le désespoir. Nous l'appelâmes. Landrin lui exposa ses inquiétudes. Nous priâmes, durant sa voya, de ne laisser désormais séjourner personne dans l'appartement, pas même les représentants du peuple, de prendre note des nouvelles et des renseignements, de ne laisser parvenir jusqu'à nous que les hommes indispensables, en un mot, de renvoyer le plus possible tout le monde, afin que les allées et venues cessassent. Durand Savoya secoua la tête et rentra dans l'antichambre, en disant « C'est bon ». Il se bornait volontiers à ces deux formules. « Pour nous, cela va bien. Pour lui-même, c'est bon. » C'est bon, noble façon de parler du devoir. Landrin et Durand Savoya sortis, Michel de Bourges prit la parole. L'art de Louis Bonaparte, copiste de son oncle, en cela comme en tout, s'avait été, dit Michel de Bourges, de jeter en avant un appel au peuple, un vote à faire, un plébiscite, en un mot, de faire surgir en apparence un gouvernement au moment où il en renversait un. Dans les grandes crises, où tout penche et paraît prêt à tomber, un peuple a besoin de se rattacher à quelque chose. À défaut d'un autre point d'appui, il prendra la souveraineté de Louis Bonaparte. Eh bien, il faut pour point d'appui offrir, nous, au peuple, sa propre souveraineté. L'Assemblée, continua Michel de Bourges, était morte de fait. La gauche, tronçon populaire de cette Assemblée haïe, pouvait suffire à la situation quelques jours, rien de plus. Il fallait qu'elle se retrempât elle-même dans la souveraineté nationale. Il était donc important de faire appel, nous aussi, au suffrage universel, d'opposer vote à vote, de mettre debout devant le prince usurpateur le peuple souverain et de convoquer immédiatement une nouvelle assemblée. Michel de Bourges proposa un décret. Michel de Bourges avait raison. Derrière la victoire de Louis Bonaparte, on voyait quelque chose de détestable mais de connu, l'Empire. Derrière la victoire de la gauche, il y avait de l'ombre. Il importait de faire le jour derrière nous. Ce qui inquiète le plus les imaginations, c'est la dictature de l'inconnu. Convoquer le plus tôt possible une nouvelle assemblée. Remettre tout de suite la France dans les mains de la France. C'était rassurer les esprits pendant le combat et les rallier après. C'était la vraie politique. Depuis quelque temps, tout en écoutant Michel de Bourges et Jules Favre qui l'appuyaient, nous croyons entendre dans la salle voisine un bourdonnement qui ressemblait à un bruit de voix. Jules Favre s'était écrié à plusieurs reprises « Mais est-ce qu'il y aurait là quelqu'un ?»« Pas possible, » lui répondait-on. « Nous avons recommandé à Durand Savoya de ne laisser demeurer personne. » Et la délibération continuait. Cependant, le bruit de voix grossissait insensiblement et finit par devenir si distinct qu'il fallut voir ce que c'était. Carnot entr'ouvit la porte, le salon et l'antichambre contigus au cabinet où nous nous tenions étaient remplis de représentants qui causaient paisiblement. Surpris, nous appelâmes Durand Savoya. « Vous n'avez donc pas compris ?» lui dit Michel de Bourges. « Mais si, » répondit Durand Savoya. « Cette maison est peut-être signalée, » reprit Carnot. « Nous sommes en danger d'être pris. » « Et tu es sur place, » ajouta Jules Favre en souriant de son sourire calme. « Eh bien, » répondit Durand Savoya, avec son regard plus tranquille encore que le sourire de Jules Favre. « Précisément. La porte de ce cabinet est dans l'obscurité peu apparente. J'ai gardé tous les représentants qui sont venus, et je les ai mis dans le salon et dans l'antichambre, où ils ont voulu. Cela fait une espèce de foule. Si la police et la troupe arrivent, je dirai « Nous voilà, on nous prendra ». On ne verra pas la porte du cabinet, et l'on ne viendra pas jusqu'à vous. Nous paierons pour vous. Si l'on a quelqu'un à tuer, on se contentera de nous. » Et, sans se douter qu'il venait de dire des paroles de héros, Durand Savoyard entra dans l'antichambre. Nous reprîmes la question du décret. Nous étions unanimes sur l'utilité de la convocation immédiate d'une nouvelle assemblée. Mais à quelle date ? Louis Bonaparte avait désigné le 20 décembre pour son plébiscite. Nous choisîmes le 21. Maintenant, quel nom donner à cette assemblée ? Michel de Bourges insistait pour le nom de Convention nationale. Jules Favre pour le nom d'Assemblée constituante. Carnot proposa le nom d'Assemblée souveraine, qui, ne réveillant aucun souvenir, laissait le champ libre à toutes les espérances. Le nom d'Assemblée souveraine fut adopté. Le décret, dont Carnot voulut bien écrire les considérants sous ma dictée, fut rédigé en ces termes. Il est de ceux qui ont été imprimés et affichés. Numéro 5, décret. Le crime de Louis Bonaparte impose aux représentants du peuple demeuré libre de grands devoirs. La force brutale cherche à rendre impossible l'accomplissement de ses devoirs. Traqués, errant d'asile en asile, assassinés dans les rues, les représentants républicains délibèrent et agissent, malgré l'infâme police du coup d'État. L'attentat de Louis-Napoléon, en brisant tous les pouvoirs, n'a laissé debout qu'une autorité, l'autorité suprême, l'autorité du peuple, le suffrage universel. C'est au peuple souverain qu'il appartient de ressaisir et de reconstituer toutes les forces sociales aujourd'hui dispersées. En conséquence, les représentants du peuple décrètent, article 1er, le peuple est convoqué le 21 décembre 1851 pour élire une assemblée souveraine. Article 2. L'élection se fera par le suffrage universel selon les formes réglées par le décret du gouvernement provisoire du 5 mars 1848. Fait à Paris, en assemblée de permanence, le 4 décembre 1851. Comme je venais de signer ce décret, Durand Savoyard entra et me dit à voix basse qu'une femme me demandait et attendait dans l'antichambre. J'y allais. C'était Madame Charassin. Son mari avait disparu. Le représentant Charassin, économiste, agronome, savant, était en même temps un homme intrépide. Nous l'avions vu la veille aux endroits les plus périlleux. Était-il arrêté ? Madame Charassin venait me demander si nous savions où il était. Je l'ignorais. Elle était allée à Mazas s'informer. Un colonel qui était à la fois de l'armée et de la police l'avait reçu et lui avait dit « Je ne puis vous permettre de voir votre mari qu'à une condition. Laquelle ? Vous ne lui parlerez de rien. Comment de rien ? Pas de nouvelles, pas de politique. Soit, donnez-moi votre parole d'honneur. » Et elle avait répondu « Comment voulez-vous que je vous donne ma parole d'honneur puisque je ne recevrai pas la vôtre ?» J'ai revu depuis Charassin dans l'exil. Madame Charassin venait de me quitter quand Théodore Bach arriva. Il nous apportait la protestation du Conseil d'État. La voici. Protestation du Conseil d'État. Les sous-signés, membres du Conseil d'État, élus par les assemblées constituantes et législatives, réunis, nonobstant le décret du 2 décembre, au lieu de leur séance, et l'ayant trouvé entouré de la force armée qui leur en a interdit l'accès, proteste contre l'acte qui a prononcé la dissolution du Conseil d'État et déclare n'avoir cessé leurs fonctions qu'empêchées par la force. Paris, ce 3 décembre 1851. Signé Bettemont, Vivien, Bureau de Pusy, Sturm, Charton, Cuvier, De Renneville, Horace Say, Boulatigné, Gauthier de Rumilly, De Jouvencel, Dunoyer, Carteret, De Fresne, Bouchenay-le-Fer, Rivet, Boudet, Cormenin, Ponce de Leroux. Disons comment s'était passée l'aventure du Conseil d'État. Louis Bonaparte avait fait expulser l'Assemblée par l'armée, la Haute Cour par la police. Il fit expulser le Conseil d'État par le portier. Le 2 décembre, au matin, à l'heure même où les représentants de la droite allaient chez M. Daru à la mairie du 10e arrondissement, les conseillers d'État se rendaient à l'hôtel du Quai d'Orsay. Ils entrèrent, un à un. Le quai était couvert de soldats. Un régiment y bivouaquait avec les fusils, en faisceau. Les conseillers d'État furent bientôt une trentaine. Ils se mirent à délibérer. Un projet de protestation fut rédigé. Au moment où on allait le signer, le portier, pâle, entra. Il balbutiait. Il déclara qu'il exécutait des ordres, et il leur enjoignit de sortir. Sur ce, quelques conseillers d'État déclarèrent que, si indignés qu'ils fussent, ils ne mettraient pas leur signature à côté des signatures républicaines. Manière d'obéir au portier. M. Bettemont, l'un des présidents du Conseil d'État, offrit sa maison. Il demeurait rue Saint-Romain. Les membres républicains y allèrent et signèrent sans discussion la protestation qu'on vient de lire. Quelques membres qui demeuraient dans des quartiers éloignés n'avaient pu venir au rendez-vous. Le plus jeune des conseillers d'État, homme d'un ferme cœur et d'un noble esprit, M. Édouard Charton, se chargea de porter la protestation aux collègues absents. Il le fit, non sans danger, à pied, n'ayant pu trouver de voiture, arrêté par les soldats, menacé d'être fouillé, ce qui eût été périlleux. Il parvint cependant chez quelques-uns des conseillers d'État. Plusieurs signèrent, Ponce de Leroux, résolument, Cormenin, avec une sorte de fièvre, Boudet, après hésitation. M. Boudet tremblait, sa famille avait peur. On entendait par la fenêtre ouverte des décharges d'artillerie. Charton, vaillant et calme, lui dit « Vos amis Vivien, Rivet et Sturm ont signé. » Boudet signa. Plusieurs refusèrent, alléguant, l'un son grand âge, l'autre le « Res Augusta Domi », un autre la peur de faire les affaires des Rouges. « Dites, la peur tout court !» répliqua Charton. Le lendemain, trois, messieurs Vivien et Bettemont, portèrent la protestation à Boulet de la Meurthe, vice-président de la République et président du Conseil d'État, qui les reçut en robe de chambre et leur cria « Allez-vous-en, perdez-vous, soit, mais sans moi !» Le matin du 4, M. de Cormenin biffa sa signature, donnant cette raison inouïe et authentique, le mot « ancien » conseiller d'État, ne fait pas bon effet sur un livre. Je crains de nuire à mon éditeur. Encore un détail caractéristique. M. Béic, le matin du 2, était arrivé pendant qu'on rédigeait la protestation. Il avait entr'ouvert la porte. Près de la porte se tenait M. Gauthier de Rumilly, un des membres les plus justement respectés du Conseil d'État. M. Béic avait demandé à M. Gauthier de Rumilly « Que fait-on? C'est un crime. Que faisons-nous ?» M. Gauthier de Rumilly avait répondu « Une protestation. » Sur ce mot, M. Béic avait refermé la porte et avait disparu. Il reparut plus tard, sous l'Empire. « Ministre !»